7 jours d'actu avec Damien.
Bonjour Damien, 7 jours d'actu. Un résistant qui reçoit les honneurs, la Norvège qui refroidit la France et les enfants rois de Beaumont, voici les quelques événements sur lesquels nous reviendrons. Dimanche dernier, 17 mars, l'Honneur de Cosse, petit village au nord de Montauban, a eu le privilège de recevoir un hommage pas comme les autres, un hommage attribué à l'ancien abbé Alexandre Glasberg, qui fut curé de l'Honneur de Cosse pendant la Seconde Guerre mondiale. Agent de liaison entre les maquis locaux de Saint-Antonin, Verdun et Lozerte, il fut l'un des principaux responsables de la résistance dans le département. Membre du comité de libération départementale, il maintient l'ordre dans la ville de Montauban après la libération de la ville. Toutes les autorités civiles, militaires et la population ont donc rendu un hommage. Le maire de l'Honneur de Cosse, Michel Lamolinéry, qui lui aussi a eu des ancêtres qui ont été des résistants célèbres, nous rappelle et nous donne son impression lors de cette journée commémorative.
Mais c'est d'abord, la commune de Cosse a été une des trois communes à avoir reçu l'accord de guerre. C'est un petit peu rappelé à la population des environs et du département que recevoir l'accord de guerre, ce n'était pas une sensation forte après la guerre de 1939-45, et donc c'était pour nous un petit peu montrer que l'Honneur de Cosse, il y avait des gens qui s'étaient battus et qui avaient peut-être qui avaient donné de leur vie pour nous permettre de vivre librement aujourd'hui. Surtout rappeler que gens qui ont souffert et qui ont œuvré pour la liberté et aujourd'hui la paix, donc c'était un peu un souvenir de ces personnes-là, ne pas les oublier, ça c'est le plus important surtout.
L'abbé Glasberg, donc curé très célèbre à l'Honneur de Cosse, qui a libéré le village et qui a permis que les nazis ne s'emparent pas après l'année 42 de tout le sud du département. Des historiens ont travaillé sur le curé célèbre, notamment André Haribaud, historien, qui connaît très bien et qui sait comment s'organiser la résistance dans notre département. Il nous en dit un peu plus sur la partie tarn-et-garonnaise de Alexandre Glasberg.
Alors lorsque l'abbé Glasberg quitte la région lyonnaise, c'est le monseigneur Gerlier, l'archevêque de Lyon, qui envoie donc l'abbé Glasberg à monseigneur Théas, évêque de Montauban, évêque résistant. Et monseigneur Théas, immédiatement, envoie Alexandre Glasberg sous le nom d'Élie Corvin dans la cure de l'Héribosque, parce que cette cure est libre. Et autrement dit, il camoufle l'abbé Glasberg, exactement, parce que monseigneur Théas était au courant des activités de l'abbé Glasberg. Et c'est là qu'il va y passer 15 mois, puisqu'il arrive ici en février 43 et il repart en août 44. Mais pendant l'année 43, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Ce n'est qu'en 1944 que là, il a une activité dont on peut dire qu'on possède évidemment les éléments pour dire qu'effectivement, il a participé à la résistance de façon assez effective, bien sûr. C'était ce qui le caractérisait, c'est que c'était un prêtre qui jouait en quelque sorte de temporisateur. Il essayait de concilier les uns et les autres parce qu'au fur et à mesure qu'on approchait de la libération en août 44, il est évident que les appétits politiques se manifestaient et que par conséquent chacun tirait un peu la couverture à soi, tandis que lui il a fait en sorte que effectivement on ait un comité départemental de libération qui soit à peu près correct, et c'est ce à quoi il est d'ailleurs arrivé effectivement.
Marseillaise, chant des partisans, lâcher de pigeons et traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts. Il y avait aussi une messe, puisque Alexandre Glasberg, avant d'être un résistant, était curé. Messe qui a été faite par l'évêque du Tarn-et-Garonne, Bernard Housset, qui nous en dit un petit peu plus sur ce curé qui a œuvré, malgré tout, alors que l'on reprochait à l'église de ne pas trop parler pendant la Seconde Guerre mondiale, l'évêque de Tarn-et-Garonne, lui, réaffirme qu'Alexandre Glasberg a respecté la doctrine catholique en protégeant les territoires du joug nazi.
Si j'ai accepté l'invitation de monsieur le maire de l'Honneur de Cosse pour cette journée d'hommage à la résistance, c'est parce que on voulait aussi honorer l'abbé Glasberg, que pendant son séjour à l'Héribosque, il a célébré tous les jours la messe, qu'il était accueilli par monseigneur Théas comme prêtre, et de la fin 42 à la libération, il est resté là. Donc célébrer la messe était le rejoindre dans ce qui était essentiel pour lui, parce qu'il était prêtre catholique et que ce qu'il a fait, il l'a fait au nom de l'Évangile, c'est-à-dire sauver ceux qui étaient victimes de la barbarie nazie, c'est-à-dire défendre l'homme. L'abbé Glasberg n'était pas un combattant en armes, c'était un combattant dans la pratique, c'est-à-dire pour faire du bien à ceux qui étaient menacés, à ceux auxquels, par des lois iniques, on faisait du mal.
Tout le monde sait que nous nous vivons dans un monde multipolaire maintenant. Il est donc utile de connaître les principales langues du monde. L'association Galinette organisait le Festival des langues du monde devant le Collège Ingres à Montauban. Nombreux stands présents avec les territoires d'outre-mer, Mayotte. Il y avait aussi le Cameroun, l'Ukraine, la péninsule ibérique. Toute la journée, on pouvait apprendre des langues, découvrir des chants, des contes et des musiques. Tout ça organisé d'une main de fer par le président de l'association Galinette, Jean-Marc Buge. Une fête des langues qui n'est pas née ici à Montauban, mais qui a connu déjà depuis un certain temps une certaine notoriété.
Il faut reconnaître que ce n'est pas nous qui avons inventé le concept. Il a été inventé par des Toulousains qui font tous les ans un forum des langues du monde à Toulouse, sur la base du Capitole. Et c'est un concept qui a été repris dans différentes villes de France, à Brest, à Nantes, Perpignan, Nice, etc. Et voilà, nous, comme on travaille sur ces questions de bilinguisme là, au niveau scolaire, ça nous paraissait aussi un bon moyen de faire des promotions de ce bilinguisme au travers d'une fête comme ça. Il y a tout d'abord tout un tas de stands d'informations sur différentes langues et cultures. Donc, et ensuite des animations sur scène, notamment en chant, danse, musique. Et cette année, nous avons aussi des cours de langue, donc toute la journée, différentes langues. Et puis d'autres, comme des contes par exemple, il y aura tout à l'heure une conteuse qui va chanter des contes, raconter des histoires en occitan et en français. Voilà, on a eu passer aussi des films suivant les années, le programme est un peu différent, hein. On propose comme ça différentes animations, il y a eu des films donc, ou des contes autres, ou des, bon, voilà, ou des danses, etc.
Les territoires d'outre-mer, je vous l'ai dit en introduction, bien représentés. Le stand de Mayotte, très vivant, très actif et très animé. Nous avons rencontré l'un des bénévoles de ce stand qui nous fait la promotion de Mayotte. Il faut le rappeler, territoire d'outre-mer qui est devenu département il n'y a pas très longtemps.
Et oui, alors Mayotte, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis pas mal de temps, c'est une collectivité territoriale de la France. C'est passé à la télé tout récemment avec les événements qu'on a eu, ce qu'on attendait, ce que la population nous attendait depuis des années, c'est-à-dire le département de Mayotte. Aujourd'hui, on a la chance de nous faire découvrir. C'est pour ça aussi qu'on est là suite à ce qui s'est passé tout récemment pour nous représenter notre île.
Les gens qui viennent à votre stand, qu'est-ce que vous leur proposez s'ils viennent vous voir ?
On a essayé beaucoup d'être ouvert par rapport au tourisme de notre île. C'est vrai que ça peut être un avantage aujourd'hui d'en parler parce que dans les quelques années qui vont arriver, ça va être l'un des sites, des destinations touristiques les plus prisées peut-être de l'outre-mer en fait. Donc nous, on a essayé d'être sur tous les fronts en fait. On s'est préparé pour pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles on serait amené à répondre.
Après l'outre-mer, on revient en Europe avec un pays pas très loin de chez nous, l'Espagne. Comment ne pas être émerveillé par la culture espagnole, comme nous le présente son président, le président de l'association Iberia Cultura, José Miguel.
C'est notre culture en premier lieu, puisque déjà étant espagnol, il faut qu'on se motive pour essayer de participer à des événements comme ça.
Donnez-nous envie d'aimer la culture ibérique espagnole.
Alors bon, la première des choses qu'on pense à l'Espagne souvent, bon, c'est évidemment un peu le tourisme en été, bon, surtout du côté catalan et tout ça. Mais bon, il y a d'autres côtés et je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment l'Espagne parce qu'un côté chaleureux, il y a le soleil, mais c'est un côté chaleureux des gens aussi. Et bon, il y a beaucoup d'activités, même le soir, comme tout le monde connaît. Donc nous, on essaye de transmettre un petit peu ce savoir et cette culture espagnole à travers nos manifestations. On donne des cours d'espagnol à notre salle 202 à l'ancien collège. Le mercredi après-midi, il y a deux horaires, de 14h à 16h, c'est les cours confirmés. Et de 16h à 18h, c'est débutant, voilà, d'espagnol.
Enfin, un stand à ne pas rater, celui de Corinne Kersinoise, qui après ses 10 ans d'expérience auprès des Touaregs du Sahara, a décidé de retransmettre cette culture Comme vous allez l'entendre, cette passion pour les Touaregs ne s'est jamais dissipée.
Alors c'est une fête des langues et moi je présente la Tamashek, qui est une langue qui a une écriture, qui est la langue des Touaregs. Touareg c'est un mot arabe, c'est Imouhar. C'est le nom qui se donne eux, ce sont des Imouhar. Donc qui est parlé en Algérie, donc au Sahara algérien, Libye, Niger, Mali et au nord de Mauritanie aussi.
Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez faire la promotion des Touaregs, de la langue, vous pouvez nous la faire découvrir?
Maïnar, naïnakawa, tassilitahossi, akaritahossi, saïnar, edunatiolar, nullen. Voilà.
Malgré la crise économique qui sévit actuellement, il y avait peut-être un endroit qu'il ne fallait pas rater ce week-end. C'était le salon de l'occasion sur le cours Foucault à Montauban, où plus de 400 véhicules étaient exposés, avec des prix variant de 1500 à 10 000 euros. Le choix était grand. L'organisateur qui est garagiste Renault à Lozère, Christian Muret, nous donne son sentiment sur ce salon de l'occasion et aussi sur la crise que connaît l'automobile.
Tous les exposants, ce sont des professionnels automobiles du département, concessionnaires, MRA, agents de marque et des professionnels automobiles, exclusivement du département. Donc tous des gens qui ont pignon sur rue, qui sont bien cotés. À tous, nous sommes environ 24 ou 25 exposants, avec environ 400 véhicules sur le salon. Donc c'est à peu près ce que nous avons d'habitude.
Comment vous les contactez ces garages? Ils viennent spontanément? Comment ça fonctionne ça pour les attirer ici?
C'est-à-dire qu'il y a des habitués depuis bon nombre d'années et il y a des nouveaux qui veulent rentrer dans le cercle et qui viennent se présenter.
Est-ce que l'occasion est peut-être plus protégée que le neuf?
Non, je ne pense pas. L'occasion est victime de la crise également. Les gens ils sont très très hésitants, ils calculent, ils comparent. Et surtout, ils hésitent. Les affaires sont difficiles. Les véhicules neufs ont des prix qui ont été revus à la baisse et qui nuisent considérablement à la vente des occasions récentes.
Malgré la crise économique, les concessionnaires présents ne veulent pas jouer dans la psychose. La carrosserie CVA, elle, reste optimiste, même s'il y a quand même un léger frémissement des ventes. C'est ce que nous précise Jean-François Deluzos. Donc, c'est sans aucun problème que vous avez accepté de participer donc, à ce salon d'occasion alors, cette année.
Ah, tout à fait. On l'a voulu pour se présenter, déjà présenter notre société et éventuellement vendre des véhicules d'occasion par la même occasion, un peu mieux.
Oui, par rapport à la crise, c'est vrai que ça, simplement, vous la ressentez au niveau de vos clients. Est-ce qu'il y a une baisse des ventes de voitures d'occasion?
Il y a une baisse de ventes. Nous, on travaille dans un budget qui va entre 3 000 et 10 000 euros. Et même là, on sent que les gens manquent d'argent ou sont frileux pour cette période. Quoi.
Par rapport à tout ce qu'a fait le gouvernement au niveau prime à la casse, bonus écologique, est-ce que vous, pour les voitures d'occasion, ça a un impact?
Ça a un impact un peu pour nous parce qu'on a moins de véhicules d'occasion à petit prix sur le marché puisqu'ils s'en vont en prime à la casse justement pour les véhicules neufs. Mais après, ça n'a pas un impact spécifique pour nous, pour nos véhicules. Quoi. On reste dans des petits budgets. Quoi.
Enfin, les particuliers venus, eux nombreux, espéraient trouver à travers ces nombreux véhicules la perle rare. Vous allez l'entendre, malgré tout ce que l'on dit partout dans les sondages, la motivation des gens présents dans ce salon n'est pas forcément financière. Certains voulaient passer du bon temps, d'autres, effectivement, il était nécessaire de changer de voiture. Voici un condensé des réactions à travers le cours Foucault des visiteurs venus nombreux à ce salon de l'occasion de l'automobile. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici, dans ce salon?
Pour changer ma voiture.
Est-ce que la crise actuelle ne vous empêche pas, ne vous bloque pas pour acheter une nouvelle voiture financièrement?
Ça pose un petit problème, mais bon, quand on n'a plus de voiture, on est obligé d'en acheter une pour aller travailler.
Bon, par curiosité un peu.
Bon, moi, c'est pour passer l'après-midi.
Est-ce que toutes les propositions faites par le gouvernement, bonus écologique, prime à la casse, ça vous incite pas à changer de voiture?
Ou alors la politique, ça, pour moi, c'est sous les pieds.
Il y a quand même des choses qui incitent à changer de voiture.
Oui, si on veut. Mais ce qui compte toujours, c'est qu'après, les vendeurs, ils vous oublient pas.
Et vous, monsieur? Bon, tout ça, ça vous incite pas?
Ça inciterait, mais il manque le meilleur. Voilà, c'est ça le problème.
Et vous, madame, pareil?
Pareil, oui.
La prime à la casse, oui. Ça vous intéresse pas?
Non.
Mercredi 13 mai dernier, c'était la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, 62e édition avec pour présidente cette année Isabelle Huppert, qui a déjà été primée pour ce festival. Un lever de rideau orchestré par l'actrice Afia Hersi et l'illustre Charles Aznavour devant un panel de stars, Francis Ford Coppola, Asia Argento, Chucky, avec de nombreux films en compétition pendant 15 jours. La croisette va donc être animée par le cinéma, le monde du cinéma qui, lui, malgré tout, ne connaît pas la crise. Retour sur cette journée exceptionnelle d'ouverture du Festival de Cannes.
Je suis impatiente de découvrir tous ces films, leurs secrets, leur beauté qu'ils vont nous révéler et dont le cinéma a tant besoin. Alors, je compte sur votre attention et vous pouvez compter sur la mienne pendant tout ce festival.
Donc, je déclare ouvert le 62e Festival de Cannes.
S'il y a bien un village dans le Tarn-et-Garonne où on sait s'amuser, c'est Beaumont-de-Lomagne. Avec sa fête de l'ail, sa foire agricole, il y avait donc dimanche dernier une fête exclusivement réservée aux enfants, organisée par l'association culturelle, l'association socio-culturelle. C'est toute la journée des structures gonflables, des jeux de société, des jeux d'animation, des spectacles avec des clowns et des échasses. La présidente de l'association socio-culturelle Maïté Tuféry, qui se félicite de cette 12e édition, nous rappelle comment est venue l'idée de faire une fête des enfants à Beaumont-de-Lomagne.
On en est à la 12e, 12 années consécutives sans interruption. Au départ, c'était pour faire davantage d'animation sur Beaumont. On a tenté quelque chose de très léger, il n'y avait pas grand-chose au début. On s'est dit pourquoi pas le faire, ça a connu du succès. Et chaque année, on le renouvelle et là, on est à un rythme qui satisfait tout le monde.
Donnez-nous le programme et le déroulement de cette fête des enfants. Qu'est-ce qu'on peut venir y faire ?
Plein de choses. Alors en fait, tout se passe en même temps. Il y a des ateliers principalement animés par des bénévoles qui fonctionnent toute la journée de 11h du matin à 18h, voilà, sans interruption. Et ensuite, il y a tout un programme d'événements. Tout un programme d'événements qui, comme par exemple les clowns pistils qui sont venus cette année. Là, ce sont des professionnels, la troupe du Grand Coon Quay qui fait une installation avec un bateau de pirates, le magicien. Il y a aussi des spectacles de marionnettes, spectacles de l'école de cirque Ayaye avec laquelle on fonctionne aussi en partenariat. Les enfants ont un choix perpétuel. Tous les ateliers à disposition pour le passeport à l'entrée et tous les spectacles, tout est compris dedans, à part l'alimentation. Sinon, une fois qu'ils ont acquis leur passeport, bien, ils ont tout à disposition.
Au détour de la vieille halle beaumontoise, une habitante de Beaumont, qui habite à Beaumont depuis 10 ans, une fidèle de la fête des enfants, pour elle, c'est un événement qu'il ne faut absolument pas rater.
J'habite Beaumont-de-Lomagne depuis 10 ans, donc la fête des enfants, on y vient chaque année. Avec mes enfants, mes deux garçons, et c'est une fête super conviviale où on trouve en fait le bonheur de tous les enfants. Je pense que chaque âge trouve l'activité en fait qui lui correspond, voilà. Il y en a de nombreuses activités, hein. Je pense qu'on a de quoi faire, on a des structures gonflables, on a des ateliers de créativité avec de la poterie, de la peinture, etc. Des parcours sportifs pour les plus téméraires, et puis... Après, des spectacles où là, on est plus dans le visuel et qui sont sympas aussi.
Au détour de quelques crêpes et de quelques gaufres, ceux qui parlent le mieux de cette fête des enfants, ce sont les enfants eux-mêmes. Nous avons rencontré Quentin et Antoine qui nous disent leur impression sur cette fête des enfants où on peut faire des structures gonflables, on peut voir des clowns et on peut faire du jeu de société. Parle-moi de la fête des enfants cette année, comment tu la trouves ?
Bien.
Quelles sont les activités qui t'ont plu aujourd'hui ?
Le trampoline et les jeux gonflables. J'ai mangé une glace, j'ai joué.
Est-ce qu'il y avait des spectacles aussi à aller voir ?
Oui.
T'as vu quoi comme spectacle ?
Le spectacle Attaque des pirates. Il y en avait sur des échasses.
C'est bien parce qu'il y a des activités sympas, manuelles.
Et quoi comme quel type d'activité manuelle ?
Par exemple, aujourd'hui, j'ai fabriqué une voiture... où on devait souffler dans un ballon pour la faire avancer. Et y avait un château en paille grandeur nature, des jeux, oui, des spectacles de danse et de pirates.
Quel type de jeu tu peux faire ?
De société, des jeux... Après, je sais pas.
On termine cette édition de 7 jours d'actu par un événement européen qui a eu lieu le week-end dernier, le traditionnel événement de l'Eurovision suivi par 100 millions d'Européens qui avait lieu cette année à Moscou. Patricia Kass pour la France était en lice, mais le grand gagnant a été la Norvège avec Alexander Rybak. Patricia Kass, malgré sa belle prestation, n'a fini que 8e. Il faut savoir aussi que la Norvège, depuis la création de l'Eurovision, a reçu le plus grand nombre de points, un événement, un record battu. On va terminer donc cette émission en musique avec la prestation du Norvégien, avec cette chanson qui est donc la chanson gagnante de l'Eurovision 2009.
Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above.
Voilà, 7 jours d'actu, c'est terminé pour cette semaine. Les plus de l'émission sur www.cfmradio.fr, rubrique 7 jours d'actu. Merci de l'avoir suivi, restez à l'écoute des programmes de CFM.
C'était 7 jours d'actu sur CFM avec Damien.